Cet épisode a été enregistré le 12 mars 2024. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play ball.
Hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game.
30 équipes, 2 blaireaux et 1 podcast par jour. C'est l'épisode 15, c'est présenté par moi, Mike, et celui que l'on surnomme Joey Rototo du côté de Cincy, Guillaume.
Salut Mike, salut à tous.
Septième équipe des Central, dès la moitié des comptes pleins, et c'est même pas la pire. Bienvenue chez les Cincinnati Reds. Marty, je crois que c'est encore la mauvaise année. 2023, c'était MVP de la Cruz et médaille d'or aux 100 mètres de Budapest. Oh non, pas vous Doc, pas vous. Eh non, pas le Doc, mais oui, petite hype de Cincinnati Reds. 82 victoires, 80 défaites, bilan à 506. Top 15, voire même top 10 du line-up au niveau de la frappe. Starting pitcher pathétique en moins 5, relief pas beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Une saison au-dessus de 500, c'était inespéré hein, quand on voyait ce qui s'était passé en 2022. On savait qu'il y avait de bons prospects, mais pas qu'ils allaient performer de suite. Dites-vous que le joueur le plus vieux du line-up titulaire, c'était Nick Senzel à 28 ans. Cinquième saison, c'est une des belles surprises de 2023. Ils ont quand même un bilan de 21-31, soit 404 contre les équipes de la NL Central. S'ils avaient fait aussi bien que contre toutes les autres équipes, bah ils auraient eu un bilan de 89 victoires, soit wild card. Hein. Du coup, les Reds, va falloir apprendre à gagner contre les équipes de votre division parce que c'est des pipes, hein. Donc il y a de la place. Allez-y. Au niveau du pitching, bah Andrew Abbott, 3,87 d'ERA, 109 inning pitch, 109 inning pitch, hein, c'est quand même pas foufou. 120K, WAR à 2,7, ERA plus à 118. Pas énorme, mais finalement, c'est le plus régulier. Et ça a été clairement la plus grande force des Reds au niveau du pitching la saison dernière, parce que tout le reste, c'était dur, dur, dur. Hein. Au batting, bah, TJ Friedel, 3,8 de WAR. Batting average à 2,79. OPS plus à 118. OPS à 819. Grosse mention pour Matt McLain et Spencer Steer, qui ont vraiment été exceptionnels aussi l'an dernier par rapport à ce qu'on attendait d'eux. L'ensemble n'a pas été totalement incroyable, mais ils ont eu un vrai collectif avec plein d'individualités qui ont été juste au-dessus de la moyenne. Pas de superstar, mais juste au-dessus de la moyenne, ce qui les amène à ce résultat-là. À la trade deadline, bah, ils avaient été récupérés Sam Moll, un lanceur des Athletics, en échange de Joe Boyle, un lanceur des Cincinnati Reds. Soit pas grand chose, pas grand chose, pas grand chose. Dans les petits événements, bah, 12. 12, c'est le nombre de matchs que les Reds ont gagné d'affilée entre le 10 et le 24 juin. Il faut quand même se rendre compte que sur ces 12 victoires, à chaque fois, les Reds sont revenus du diable vauvert et ont remonté le score en 7e ou plus loin. Les Reds ont gagné aussi plus de 20 matchs par rapport à 2022. Plus de 20 matchs. Les seuls qu'on fait mieux, c'est les Rangers avec plus 22. Et surtout, 48 matchs dans lesquels les Reds sont venus gagner alors qu'ils étaient derrière. 48 matchs sur 82 victoires. Je vous laisse faire les calculs. Ça fait quand même plus de 50%. C'est juste monstrueux. Ils étaient à égalité avec les Orioles dans cette catégorie-là. Voilà, il n'y a que deux équipes avec les Rockies et les A's qui avaient une ERA plus faible que les starters des Reds, et même comme ça ils ont réussi à apparaître en 15e des comptes pleins, et seulement la troisième équipe de la NL Central. Voilà, les autres étaient vraiment des pipes coucou, les Cardinals. Pecota les voyait à 68-94, ils ont fait 14 victoires de plus, donc Pecota les voyait déjà mieux que l'année d'avant, mais les voyait pas vraiment aussi fort que ça. Petite note aussi, parce que j'ai vu que les Reds ont quand même réussi en 2023 à avoir 25 000 spectateurs par match en moyenne, contre 17 000 l'année d'avant. Donc quand tu joues bien, les gens viennent au stade. Hey, c'est QFD. Ils ont été éliminés, je crois, de la course au playoff le 30 septembre, à la fin du game 161. Donc du coup, bah, j'ai spoilé, il n'y a pas de post-season, Guillaume.
Et bah, place à la off-season. Allez, la masse salariale pour la saison 2024, ça va être 70 millions. Non, pour 2023, c'était 70 millions. Pardon, excuse-moi. Et pour 2024, elle est projetée à près de 94 millions de dollars. C'est une augmentation de plus de 23 millions de dollars. Ça fait plus 30% par rapport à 2023. Clairement, ils ont envie de bâtir avec la nouvelle génération pour atteindre les playoffs dès la saison prochaine. Donc en arbitration, ils ont évité l'arbitration avec Jonathan India qu'ils ont signé pour 2 ans, l'infielder. Lucas Sims, Rolver pour 1 an. Alex Young, Rolver, 1 an. Terai Antone, Rolver pour 1 an. Jake Fraley, outfielder pour 1 an. Et Tyler Stevenson, le catcher, pour 1 an. En free agency, ils ont réussi à conserver Luke Maley, le catcher, qui a signé un contrat de 1 an. Buck Farmer, le Rolver, qui a signé pour un contrat de 1 an. Et ensuite, ils ont signé Brent Sutter, Rolver, pour 1 an. Frankie Montas, starter, pour 1 an. Nick Martinez, starter, pour 1 an. Austin Wynn, catcher, pour 1 an. Reimer Candelario, 3 bases, première base, pour 3 ans. Emilio Pagan, Rolver, pour 1 an. Ils ont perdu Joey Votto pour leur première base. Le club a décidé de décliner l'option qu'ils avaient. Kurt Casali, le catcher, pareil. Le club a décidé de décliner l'option. Nick Senzel, qui n'a pas été retenu. Et ensuite, Harrison Bader, qui est devenu un free agent, l'outfielder. Ben Lively, le pitcher, qui a été envoyé en minor, tout comme Justin Dunn, un pitcher. Valdimir Gutierrez, un pitcher. Brett Kennedy, pitcher aussi. Ils n'ont pas gardé non-tender de Derek Lowe, le releveur. Allen Buznitz a été lui aussi renvoyé en minor. Et River San Martin n'a pas été retenu. Dans les trades, ils ont tradé un releveur, Daniel Duarte, qui est parti aux Rangers. Et TJ Hopkins, un outfielder, qui a été tradé aux Giants. Au niveau des blessés, ils vont commencer la saison avec Nick Lodolo, le starter qui va être blessé. Il a une réaction de stress dans la jambe, donc pour le moment, pas de date de retour. Et au niveau du line-up, c'est Yan Jibo et... non, c'est pas du line-up en plus, non, c'est 2 releveurs, Yan Jibo et Sam Moll. Qui eux aussi se sont blessés et devraient se sont blessés en février et devraient revenir, problème d'avant-bras et d'épaule pour respectivement pour les deux. Sur la restricted list, c'est important de le noter, j'ai failli l'oublier, ils ont Noël V. Martier, leur prospect numéro 1, qui vient d'être suspendu la semaine dernière pour 80 matchs parce qu'il a décidé, il a pensé que c'était une bonne idée de prendre des PED, donc les produits dopants. Bah écoute, hein, s'il a pensé que c'était une bonne idée, il va avoir 80 matchs pour... Hein?
Bah, il aurait fallu dire que s'il avait violenté une personne de la langue féminine, il aurait peut-être été suspendu moins de temps, hein, parce que c'est comme ça que fonctionne la MLB.
Je ne vais pas rentrer dans ce débat de savoir ce qui est le mieux ou ce qui est le moins bien. Voilà. Par contre, sur leur off-season, ils ont une note de B+. Parce que vu que c'est quand même une équipe qui a un petit marché, même si c'est une équipe historique, c'est un petit marché. D'habitude, ils sont frileux pour faire des trades, et là, ils ont fait quasiment 100 millions pour la free agency, ce qui est un bon exemple de ce qu'on peut faire quand on veut essayer de performer. Ils ont rajouté Reimer Candelario, Frankie Montas, donc il y a des bonnes choses. Ils sont devenus meilleurs effectivement cet hiver, et pour ça, bah c'est pour ça qu'il faut quand même retenir qu'ils ont pas été, ils sont pas restés dans leur coin. Au niveau des prospects, ils ont le 14e farm system. Beaucoup de profondeur, mais pas de star. Donc voilà, il y avait Noël Vimarté, mais on va pas le voir tout de suite. Et après, ils vont avoir quelques joueurs encore qui doivent arriver cette saison, même s'ils ont fait une grosse arrivée de prospects la saison dernière. Ils devront en avoir des gros. Donc on va avoir Noël Vimarté qui normalement après le All-Star Game break, si tout va bien, il devrait revenir. Un pitcher Red Loader qui devrait arriver aussi, qui était en A+ l'année dernière, et Connor Phillips, pareil, un lanceur qui devrait arriver, il devrait arriver cette année. Le line-up prévisionnel: catcher Tyler Stevenson, première base Christian Encarnacion Strand, deuxième base Matt McClain.
Tu peux le redire.
Première base Christian Encarnacion Strand.
Oh là là, quel talent!
Donc deuxième base Matt McClain, troisième base Reimer Candelario, shortstop Eli De La Cruz, champ gauche Spencer Steer, champ centre TJ Friedel, champ droit Will Benson, en DH c'est Jake Fraley, sur le bench Luke Maile catcher, Tony Kemp utility player, Jonathan India utility player et Stuart Fairchild un outfielder. Au niveau de la rotation, Hunter Green, Graham Ashcraft, Frankie Montas, Nick Martinez et Andrew Abbott qui vont commencer la rotation. Et ensuite, en setup, on a Emilio Pagan et Lucas Sims. En closer, Alexis Diaz. Et dans le bullpen, Fernando Cruz, Brent Sutter, Buck Farmer, Terry Antone et Tony Santillan. On retient quoi et qui pour la saison à venir, Mike?
Bah, le truc, c'est que au niveau des lanceurs, on l'a dit, c'était pas fou. Donc on va retenir Alexis Diaz qui est leur meilleur releveur, mais qui n'était pas très bon en 2023. La question, c'est de savoir est-ce que c'est le bon des deux frères, hein. Ça, on le saura avec le temps. Mais Alexis Diaz, aujourd'hui, c'est celui qu'on retient au niveau du lancer. Parce que en vrai, Hunter Green, il a un peu déçu. Graham Ashcraft, il a été bon, moins bon. Andrew Abbott, on l'a dit, il a été bon, moins bon. Donc c'est là, je vous parle de lanceurs qui sont tous programmés, projetés dans le top 100 l'an prochain. Donc voilà. Mais Alexis Diaz, aujourd'hui, il est projeté top 5. Donc c'est vraiment un des top lanceurs, top releveurs que l'on projette. Et donc on attend de lui beaucoup, beaucoup. Le reste du bullpen, il est quand même très bon. Parce qu'après, au niveau de la frappe, on va y revenir, mais il y a des bons joueurs, mais on n'a pas dès 2024 quelqu'un qui est identifié, on en fait ce qu'on veut des projections, toujours est-il qu'on a personne qui est projeté comme un top joueur. Donc la question, c'est Alexis Diaz, ok, mais déjà quand ton releveur c'est ton meilleur joueur, ça laisse à penser qu'il y a quand même quelque chose à améliorer, mais on a un petit 4-5 joueurs là aujourd'hui quand tu regardes le line-up qui est projeté de top 100, top 150, qui peut donner quelque chose.
En fait, c'est ça le gros problème sur cette franchise, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de talents, mais il y a personne qui sort du lot en te disant celui-là c'est un MVP caliber ou un Cy Young caliber, il n'y a plus de franchise player. Donc en fait, on est sur une reconstruction totale. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, pas forcément en plus de mecs vieux, quoi. Quand tu regardes, en fait, rien que dans le line-up, le plus ancien, c'est Raimer Candelario qui va juste avoir 31 ans cette année. Au niveau de la rotation, le plus vieux, c'est Nick Martinez qui va avoir 34 ans. Donc il y a personne où tu te dis celui-là, il va ça va être le leader de vestiaire, ça va être lui qui va tenir le truc. Donc après, dans la catégorie suivante, comme on les met souvent, ceux qui vont être le supporting cast, oui, là il y a beaucoup de gars, parce que comme tu le disais, il y en a beaucoup qui sont projetés en fait dans les 100 premiers par rapport à l'overall rank chez FanGraph.
Et j'ai dit beaucoup, en vrai, il y en a trois. T'as Spencer Sear, Jamer Candelario et TJ Friedle.
Après, t'en as trois autres aussi sur la rotation, puisque t'as Hunter Green, Graham Ashcraft et Andrew Abbott, tu vois.
Donc exact, ça fait quand même, je suis d'accord.
Sur l'ensemble de ton staff, quoi.
De ton roster. Et si tu restes, et ça fait 25%, et si tu restes sur vraiment la partie line-up, on se rend compte quand même que aussi bien Elie de la Cruz que Matt McLean. Moi, perso, Matt McLean, j'ai l'impression de le voir plus haut parce que je trouve que j'adore ce joueur. Mais bon, voilà. C'est plutôt top 200, hein. Elie de la Cruz, Matt McLean, Jonathan India, qui là est maintenant dans la nouvelle version projetée DH et donc titulaire. Et Tyler Stephenson, catcher, c'est pareil. Il est projeté que 72 parce que c'est un receveur. Parce que c'est peut-être, quand il n'est pas blessé, un des tout meilleurs receveurs de la ligue. En tous les cas, on va dire un top 10. Il est très, très bon. Voilà. Après, t'as plein de questions, quoi. Christian Encarnacion-Strain, on ne sait pas ce que ça va donner. Will Benson, on a vu des choses qui étaient pas mal, mais c'est pas incroyable non plus. Et puis, t'as quand même beaucoup de gars où on se dit, c'est ce que tu disais, c'est ce que t'as écrit, est-ce qu'ils vont reperformer. C'est-à-dire que TJ Friedle, c'est 3,8 de WAR en 2023, Spencer Sear 2,9, Jamer Candelario 2,9. Est-ce qu'ils vont être capables de faire à minima aussi bien, voire meilleur? Il faudrait meilleur, mais à minima aussi bien, parce que quand tu regardes ce qui s'est passé l'an dernier sur les starters et ce qui s'est passé l'an dernier sur le bullpen, ça fait flipper en fait. Si le line-up n'est pas à minima aussi bon que l'an dernier, là tu vas avoir des gros problèmes.
Mais c'est ça en fait, toute la question elle repose sur ta starting rotation, la rotation. On l'a dit et on n'est pas rentré forcément dans le détail parce que t'es passé dessus, mais c'est quasiment en termes de chiffres, c'est une des pires rotations de 2023. C'est hallucinant d'ailleurs que cette équipe elle ait réussi à être aussi haut avec une rotation aussi dégueulasse. Les releveurs c'est un peu mieux, mais on est sur un, on va dire, un début de deuxième partie de tableau sur la ligue, quoi. Alors que vraiment, le starting pitching, la rotation, elle est quasiment dernière, quoi. Bah, de toute façon, on l'a dit, il y a que deux franchises, à savoir les Rockies, et on connaît leur terrain, et les A's, et eux, on connaît leur, je m'en foutisme depuis, vu qu'ils veulent partir à Las Vegas. Bah, en fait, quasiment, dans les équipes qui ont vraiment joué et qu'on peut comparer, c'est celle qui a la pire ERA et qui a eu vraiment la pire rotation. Donc, t'as pas eu grand chose comme changement. T'as deux free agents qui ont signé, donc Frankie Montas et Nick Martinez. Mais le reste, c'est des mecs qui étaient déjà là. Et s'ils ont le même niveau que la saison dernière, bah, ouais, ton line-up, il va pas pouvoir tout faire tout le temps, quoi. Donc, ouais, il y a deux grandes, grandes questions. Je suis d'accord qu'ils se sont améliorés. Mais est-ce que c'est assez par rapport à ce qu'ils veulent atteindre?
Bah, le truc, c'est que leur ace aujourd'hui, c'est Frankie Montas. Le problème de Frankie Montas, c'est qu'il a deux saisons complètes. 2021 et 2022, à cheval sur deux équipes, où le gars a fait 187 et 144 innings pitch, il a des WAR à 4 et à 2. C'est pas mal, mais c'est un 3, quoi. 4, 5, ouais, c'est ça. Allez. Je l'aime beaucoup, Frankie Montas, mais on l'a vu, en plus, il a été blessé toute la saison chez les Yankees. Donc, il revient d'une saison blanche. Quand tu prends ce gars-là, que tu le bazardes direct ace, c'est signe que t'as un souci. Maintenant, Green, Ashcraft et Abbott, bah les gars, il va falloir prendre les devants maintenant. Il va falloir y aller. Ils sont attendus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont montré beaucoup, beaucoup de défauts qu'on ne sait pas s'ils vont réussir à corriger.
C'est ça, Green, je sais pas si c'est une action, enfin, si c'est, ils ont parlé aux journalistes pour vraiment, enfin, mais il y a tout un public relation qui fait dire que Green aurait travaillé sur deux pitchs supplémentaires pour compléter son arsenal qui lui permettrait d'être la saison prochaine beaucoup plus performant sur le monticule. Ok, mais on n'a rien vu pour le moment, sauf en spring training, et nous, on regarde pas le spring training. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il lance très fort, il a une fastball qui est énorme, sauf qu'il sait pas, il a du mal à spotter, et c'est compliqué pour lui de faire que ça. Et si à ça tu ajoutes ton bullpen, en fait, si tu regardes le bullpen et la rotation, il n'y a que quatre ajouts en tout. Il y a deux starters et il y a deux releveurs. Mais l'année dernière, ils étaient vraiment pourris. Et est-ce que ces quatre ajouts, ça va suffire à devenir bon au niveau du pitching, ou est-ce que ça va les rendre que moyen plus, moyen moins? Et auquel cas, tu peux pas non plus jouer avec les playoffs si tu n'as pas une rotation et un bullpen solide.
Bah, en fait, la question, c'est, on se demande, est-ce que ce qu'on a vu des Reds, c'était leur vrai niveau l'an dernier, ou est-ce qu'ils ont surperformé? Ils ont, avec le départ de Joey Votto, fait un peu de place sur leur payroll. Donc, ils peuvent potentiellement encore avoir des chips pour la trade deadline parce qu'ils ont quand même pas mal de prospects, etc. Mais le coup de Noel Vimarte, c'est un gros coup dur. La question, c'est, est-ce que les mecs qu'on a vus être très bons l'an dernier vont encore être très bons, vont être meilleurs, moins bons, etc. La rotation, elle est quand même sur... Ok, on croit en ces petits. Si ça clique, ça peut faire très mal. Franchement, si ça clique, d'après ce qu'on nous dit sur ces jeunes-là, ça peut faire très, très mal. Le problème, c'est que la jeunesse ne va pas tout faire et ils ne peuvent pas uniquement se reposer là-dessus, même si les Orioles l'ont fait ou le font depuis 2 ans. Donc, on a cette question-là. Mais entre autres questions qu'on a, Guillaume, c'est les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris Amateur, le seul site de Paris sportif qui nous assure ou qui vous assure de perdre de l'oseille. Donc, Guillaume, post-season ou pas post-season pour les Reds en 2024?
Non, je pense pas qu'ils iront post-season. Pour moi, ils ont surperformé. C'est la stat qui fait qu'ils reviennent de derrière à chaque fois. Tu peux pas faire ça sur toutes les saisons. C'est pas possible. Je pense qu'ils seront pas mauvais non plus. Je les vois à 78-84.
Écoute, moi, je les vois, tu sais quoi, je vais prendre exactement, j'avais mis un petit peu moins, mais je les vois comme toi, 78-84, mais je les vois pas faire mieux. Vraiment beaucoup, beaucoup mieux que l'an dernier. Je ne les vois pas se retrouver encore troisième ou à la course à la wild card parce que, mine de rien, les Cubs ne se sont pas affaiblis. Les Brewers ont fait des trucs très intelligents, hein, qui vont peut-être finir par payer. On se dit, oh, ils s'affaiblissent. Bah, on verra le compte plein, mais ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Les Cards, c'était normalement une anomalie l'an dernier. On va voir si ça revient cette année. Voilà, donc moi, je ne les vois pas beaucoup, beaucoup mieux. Donc, il y a encore du temps pour les Reds. Et puis surtout, on voit beaucoup de jeunes et on attend à ce que déjà les bons jeunes soient mis en avant. Hein, parce que Steer, Friedel, McLean, c'est les mecs qui auraient peut-être dû être mis en avant plus que De La Cruz ou Hunter Green. Donc, on va voir ce que ça donne. On n'est pas à l'abri quand même qu'ils se fassent un petit, qu'ils tentent un gros truc à la trade deadline pour aller récupérer des gros noms et lâcher quelques prospects, mais ouais, je les vois pas beaucoup mieux. En tous les cas, Guillaume, Ouais, ben là où tu vas être d'accord avec moi, c'est que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Alors Guillaume, est-ce qu'on se réécoute demain?
Allez, on se réécoute demain avec plaisir.
Et est-ce qu'on essaiera de se réécouter avec de meilleures conditions et un meilleur son demain, Guillaume?
On va essayer, mais il n'y a rien de gagné, il n'y a rien de garanti dans la coup sûr. À coup sûr.
Je vous assure que là, on va essayer de faire mieux parce que celui-là, il était quand même assez chaotique à enregistrer. La bise. Miguel, bate, jaque, mate. Miguel, bate, jaque, mate. Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera. Revise sus guías y acompáñenos esta noche de show. Soy Miggy, el salsero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crown, nacido y criado en Venezuela. Vengo de barrio humilde llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra pa' mata cualquiera. Se vino a guerrear, empujé otra carrera.